Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Vous souhaitez poser une question à l'invité de RTL ?
Un seul numéro, 3210.
Marisol Touraine, ministre de la Santé, est restée avec nous pour répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre. On va essayer d'aborder le don d'organes et aussi, bien entendu, le tiers payant. Et ça va être le cas immédiatement avec un médecin qui vous appelle de Toulouse, de Haute-Garonne. Il s'agit d'Adrien. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Marisol Touraine vous écoute.
Bonjour Madame la Ministre. Voilà, je voulais vous poser la question. Moi, je suis un médecin généraliste en ville. Je me lève à 5h30 du matin, je finis à 21h le soir. Il n'y a pas le tiers payant généralisé, bien que dès qu'un malade monte en ALD, c'est-à-dire en maladie longue ou grave, ou la SMU, il y a le tiers payant. Et moi, je me pense que si jamais on faisait le tiers payant à tout le monde, à ce moment-là, ça va augmenter mon nombre de patients et ça va donc, à mon avis, agrandir le déficit de la sécurité sociale, parce que le fait d'être gratuit, de venir chez le médecin et de ne pas débourser de l'argent, je vais avoir beaucoup de gens qui vont venir, je m'en aperçois, avec la CMU, avec des ALD, des gens consomment beaucoup plus de la médecine. Ils viennent me voir pour faire marquer une boîte de Doliprane, et plutôt que de l'acheter à la pharmacie et de faire pas rembourser la boîte de Doliprane.
Adrien, vous avez été très clair dans votre question, on va laisser Marisol Touraine vous répondre. La question c'est, est-ce que le tiers payant aggrave le déficit de la Sécu ?
Oui, merci voilà. Adrien. Vous dites que vous faites le tiers payant pour les personnes qui ont une maladie grave, hein, ce qu'on appelle une ALD, une affection longue,
oui, longue durée.
C'est bien. Aujourd'hui, ça n'est pas obligatoire et ça n'est même pas possible. C'est une des étapes que j'ai prévues pour 2016. Et donc, lorsque cette étape viendra, eh bien, vous la mettrez en place naturellement puisque vous êtes aujourd'hui déjà disposé à le faire. Pour le reste, nous n'avons aucun élément qui nous permette de dire que le tiers payant, qui existe dans beaucoup de pays, hein, je tiens à le dire, le tiers payant existe dans beaucoup de pays européens. Nous n'avons aucun élément qui permette de dire que ça amène à plus de consommation. La réalité, c'est qu'il y a des gens...
Ça veut dire que vous n'envisagez même pas le problème ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui ne vont pas chez le médecin parce que ils ont des difficultés pour avancer le prix de la consultation chez un généraliste, chez un spécialiste, pour des actes techniques. Et je ne parle pas de gens uniquement pauvres. Il y a des études qui ont été faites. Dans la tranche des gens qui gagnent 2000 euros par mois, on a 20% de gens qui disent avoir renoncé à une consultation pour des raisons financières.
Donc ces gens,
l'objectif, c'est qu'ils aillent voir un médecin. Alors ça, c'est l'objectif, effectivement. Ça n'est pas de dire les gens vont continuer à ne pas se soigner. Mais dans la durée, nous n'avons aucun constat d'une augmentation des dépenses de santé. Quand je vous parle de l'Allemagne, des Pays-Bas, d'autres pays où les dépenses de santé sont moins importantes qu'en France et où le tiers payant existe.
J'ai bien écouté votre réponse, Marisol Touraine. Donc, qu'on le veuille ou non, et même si pour des raisons sociales et même humaines, on souhaite bien entendu que ces Français puissent consulter, leur présence chez le médecin va contribuer à aggraver le déficit de la sécurité sociale.
Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, quand ces personnes...
On n'utilise pas les mêmes règles de calcul. Alors.
Non, quand ces personnes ont vraiment besoin de voir un médecin, qu'est-ce qu'elles font, Yves Calvi ? Elles vont à l'hôpital aux urgences. Et pour la Sécu, un passage aux urgences, ça coûte beaucoup plus cher qu'un passage chez son médecin généraliste ou un médecin en ville. Voilà. Et donc, au contraire, vous avez même des experts qui pensent qu'on pourrait faire des économies de cette façon-là. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Mais moi, je préfère qu'un malade, un patient, aille voir son médecin, aille voir un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
Plutôt que de courir aux urgences.
Plutôt que d'aller aux urgences où il va encombrer les urgences, faire en sorte que ceux qui en ont vraiment besoin attendent, et où ça va coûter 5, 6, 7 fois plus cher à la sécurité sociale que d'aller voir son médecin de ville.
J'ai compris votre réponse. Merci Adrien. C'est un autre médecin qui vous interroge maintenant, Pierre. Il nous appelle de Chartres. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Yves Calvi. J'ai bien entendu le discours de Madame Touraine. Moi, je pense qu'elle se trompe, si je peux me permettre, parce que l'accès aux soins, et ça répond un peu à la question de mon collègue toulousain, l'accès aux soins, pour moi, est conditionné par l'accès aux médecins. Bien. Pas de médecin, pas de soins. On est bien d'accord. Aujourd'hui, ce qui se passe, parce qu'on discute entre nous avec cette loi des fameux tiers payants, ce qui risque de se passer, c'est que les médecins sont quand même un peu âgés. La moyenne est plus de 50 ans, voire même 55 ans. Nombre de ceux qui sont proches de la retraite vont prendre leur retraite. Nombre de ceux qui sont pas très loin de la retraite, mais vont diminuer leur activité. À cet âge-là, on n'a plus de crédit, les enfants sont partis. C'est une façon de limiter donc le nombre de consultations sur le marché, si je puis dire. À titre personnel, et ma femme est également médecin, nous envisageons sérieusement de nous déconventionner. Déconventionner, c'est quoi? C'est qualité de travail, parce qu'au lieu d'avoir des rendez-vous en septembre, ça va être limité peut-être à 8 jours, mais je travaillerai tous les jours. Deuxièmement, vous savez qu'on ne paiera pas l'ASV. Financièrement, je dirais, c'est une petite plus pour nous. Hein. L'ASV n'est pas payée quand on...
De quoi s'agit-il, l'ASV?
L'ASV, c'est de la surcomplémentaire. D'accord. Que les médecins payent. À ce titre, d'ailleurs, on a augmenté 12,5% de nos cotisations depuis que Jean-Marc Ayrault a décidé...
Je peux vous bousculer un petit peu, Pierre. Votre question à la ministre, c'est de savoir si elle ne craint pas que des médecins se déconventionnent comme vous.
Elle ne craint pas, ou peut-être est-ce que c'est ce qu'elle veut, puisque déconventionné dans le fond, les médecins, les gens ne sont pas du tout remboursés, et du coup, ça fera de substantielles économies à la Sécu.
Marisol Touraine vous répond.
Oui, un médecin qui se déconventionne, ça veut dire que ses patients ne sont plus du tout remboursés par la Sécurité sociale. Et évidemment, ça n'est pas cela le modèle français et le modèle social français. La force du modèle social français, c'est que chacun peut se faire soigner, doit pouvoir se faire soigner, quels que soient ses revenus. Et lorsqu'un médecin se déconventionne, ça veut dire qu'il accepte qu'un certain nombre de patients ne viennent plus le voir. Parce que en France, on peut trouver un médecin en étant remboursé par la Sécurité sociale. Et je veux le dire, moi, j'ai confiance dans la volonté de l'écrasante majorité des médecins de faire vivre ce modèle social français. Parce que la force de la santé en France, c'est que, évidemment, les Français sont remboursés lorsqu'ils vont chez le médecin, lorsqu'ils ont besoin de médicaments, lorsqu'ils vont à l'hôpital. Et les patients, ils choisiront des médecins qui leur permettent d'être remboursés.
Et Marisol Touraine est toujours avec nous, ministre de la Santé. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Vous êtes retraité, vous nous appelez de Charente-Maritime.
Oui, de La Rochelle, précisément.
Nous vous écoutons, c'est une belle ville.
J'ai été greffé du foie il y a 11 ans, avec un donneur vivant, puisqu'on manque malheureusement de donneurs. C'est mon fils qui m'a donné 65% de son foie. Ma question est la suivante. Plutôt que de prélever d'autorité, ce que vous venez de voter à l'Assemblée nationale, n'aurait-il pas été plus judicieux de faire inscrire son choix sur la carte vitale à travers le médecin référent?
Alors je précise que c'est une idée qui a été notamment suggérée, je crois, par un député UDI, hein, de dire, voilà, il serait plus simple peut-être de donner notre accord ou notre refus directement sur notre carte vitale.
Je fais partie d'une association qui s'appelle la DOT-17. Je fais des conférences régulièrement dans les lycées, dans les collèges, pour éclairer un petit peu sur le don d'organes. Je n'ai rien à vendre, on n'a rien à vendre. Simplement à expliquer ce qu'est le don d'organes. Et je trouve dommage que d'autorité, on puisse se prélever sans l'accord des familles. Je trouve ça même, je dirais, lamentable. Oui.
Alors, réaction de et explication, si j'ai bien compris, de Marisol Touraine.
Vous avez raison, Claude, et c'est pour cela que ça n'est pas ce qui est dans la loi. Je veux le dire très clairement, parce que beaucoup de choses se disent, ont été dites, et il n'est pas question, je le dis, de prélever sans s'assurer du consentement de la personne et sans discuter avec les familles. Nous sommes aujourd'hui dans un pays dans lequel nous avons besoin de greffes. Il n'y a pas assez de dons, pas assez de greffes, mais ce sont des situations extraordinairement difficiles. Et on s'aperçoit que le dialogue avec les familles est évidemment essentiel. En France, vous avez des différences entre les régions. En Bretagne, il n'y a que 20% de refus. En Île-de-France, 40% de refus. Donc cela veut dire qu'il faut travailler avec les familles, qu'il faut informer sur une question qui est évidemment une question très sensible. Donc je veux dire très clairement...
Désormais, le don d'organes est bien présumé consenti pour tout Français majeur décédé.
Mais il l'est depuis plus de 30 ans. Contrairement à ce qu'on imagine depuis M. Caillavet dans les années 70. Cela ne change pas. Simplement, il faut discuter avec les familles. Qu'est-ce qui a été inscrit dans la loi? Qu'est-ce qui a été... Contrairement
c'est
à ce qu'on imagine...
C'est ce qu'on a toujours fait.
Oui, mais
dans ce cas-là, la loi ne change rien.
Si, que va proposer la loi? La loi dit, au fond, ce que nous devons faire, c'est essayer de savoir ce que la personne qui, malheureusement, est décédée, aurait voulu. Et donc nous devons définir les moyens pour qu'elle puisse dire « je ne veux pas être prélevée ». Il y a un registre. Donc nous disons « il faut que les personnes qui ne veulent pas être prélevées aillent sur ce registre pour dire leur refus ». Mais au fond, il peut y avoir d'autres manières d'exprimer son refus. Donc nous allons engager une concertation pour dire la manière dont on pourra exprimer son refus et donc ne pas être prélevé. Ça pourra être sur la carte vitale, ça peut être simplement un papier, mais il faut qu'il y ait une concertation avec les familles, avec les associations, avec les médecins. Et c'est ce travail-là qui va se faire, parce que nous avons besoin de dons, mais évidemment, on ne procède pas en la matière comme s'il s'agissait de n'importe
donc,
quoi.
Donc, aucun prélèvement automatique, et simplement, là, on commence à engager une concertation,
absolument,
quoi, à caractère national sur le don d'organes pour améliorer les chiffres.
Oui, bien sûr, il va y avoir une concertation nationale pour dire, pour définir la manière dont vous, moi, nous pourrons dire si nous sommes d'accord ou pas d'accord pour être prélevés au cas où un accident nous arriverait et où nous trouverions dans la situation d'avoir à être prélevé éventuellement.
Merci de votre...
J'insiste là-dessus parce que c'est une question extrêmement sensible.
Oui.
J'ai entendu sur votre antenne beaucoup de réactions et donc je veux dire, il n'y a pas de passage en force, il ne s'agit pas d'imposer le prélèvement à qui que ce soit, il s'agit d'alerter sur le fait que nous avons besoin de dons d'organes, nous avons besoin de prélèvements et donc nous avons besoin d'une concertation pour définir la manière dont nous pourrons nous exprimer les uns et les autres sur ce sujet.
Merci beaucoup de votre appel, Claude. On donne la parole maintenant à Claire qui, elle, nous appelle d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Nous vous écoutons, je vais vous demander d'essayer d'être concise, Claire. Excusez-moi de vous bousculer.
Je fais vite. Bonjour Madame la Ministre, je voudrais vous parler d'innovation en santé. Il est nécessaire à la médecine d'évoluer pour proposer une offre de plus en plus performante aux patients. Pendant des années, on ne s'est pas posé le problème du coût. Ce n'était pas un problème, le coût. Et puis maintenant, on en subit les conséquences. La preuve, c'est que vous essayez de faire des économies.
Médecine a un prix, la santé
voilà,
aussi, bien entendu.
Fait. Je voudrais savoir dans la loi santé, comment vous envisagez le financement raisonnable de l'innovation?
Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez et
bien sûr,
auxquelles il faut se préparer?
Bien sûr, Claire, et c'est une question très, très forte que vous posez, Claire. Parce que nous avons besoin de financer ce qui est nouveau, l'innovation, par exemple des médicaments nouveaux, ce qui suppose de faire des économies par ailleurs et d'examiner si les médicaments qui existent sur le marché apportent tous le même résultat. Je donne des exemples. L'année dernière, nous avons financé un nouveau médicament contre l'hépatite C. C'est un médicament très performant, innovant, qui guérit dans beaucoup de cas. Et évidemment, c'est un médicament qui coûte très cher. Donc, il faut à la fois négocier, travailler avec les laboratoires pharmaceutiques pour obtenir le juste prix, parce que les laboratoires ont parfois tendance à demander un prix excessif. Et puis, nous devons faire en sorte d'avoir des économies sur le reste. C'est un point important. De la même manière, nous devons financer la recherche clinique. Et la loi a pris toute une série de mesures pour valoriser ce qui est nouveau, ce qui suppose de mettre un peu moins d'argent, bien sûr, sur ce qui est plus ancien. Et donc de faire des choix et d'expliquer aussi à nos concitoyens que si nous voulons pouvoir payer les médicaments, les traitements, les appareils de demain, il y aura de nouveaux traitements contre les cancers, par exemple, qui coûteront cher. Ça suppose que nous soyons très attentifs à ce que nous dépensons par ailleurs.
Alors, le temps file vite. Il est normal aussi que vous preniez du temps vous-même pour répondre à nos auditeurs. Une question concernant cette étude qui a été publiée hier par Le Figaro et qui montre qu'une grande majorité de Français veut faire payer plus ceux d'entre nous qui ont des comportements dits à risque, comme le tabac, l'alcool ou la moto, que sais-je. Qu'en pensez-vous?
Ça n'est pas du tout le modèle français, l'habitude française, et honnêtement, je ne vois pas comment nous pourrions faire. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable à cette démarche-là. Je comprends bien l'esprit de nos concitoyens qui disent, des Français qui disent, au fond, nous devons être responsables.
Oui.
Mais il faut favoriser des comportements de responsabilité, mais il est très difficile de faire le lien, dans beaucoup de cas, entre des comportements et une maladie. Comment on va faire? Qui va se charger de dire si vous avez un cancer, c'est parce que vous aurez mangé trop gras, vous aurez fumé, ça on peut assez facilement faire le lien. Voyez, donc moi je suis extrêmement prudente, donc je préfère mettre l'accent sur la prévention, favoriser les bons comportements en santé, et c'est pour cela que dans la loi, il y a des mesures sur, par exemple, l'étiquetage nutritionnel sur les produits pour encourager à consommer des produits plus sains. Il y a de la prévention en matière de tabac, en matière d'alcool, en matière de bruit aussi, par exemple, parce que ce sont des choses qui comptent. Écouter de la musique avec un casque toute la journée trop fort, c'est mauvais pour l'audition. Moi, je préfère faire le pari de l'information, de la prévention, de l'accompagnement. Il me semble que lorsqu'on est malade, on doit être soigné.
Merci Marisol Touraine d'avoir répondu aux auditeurs d'RTL qui nous appelaient au 3210. Bonne journée à vous, bonne journée à nos auditeurs qui continueront bien entendu d'intervenir sur l'actualité à partir de midi et demi. Ce sera RTL Midi et ce sont Christelle Rebière et Vincent Parisot qui vous donneront la parole.